les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je le veux, nulle vanité. Je recherche le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Ces vers du poète irlandais William Butler Yeats, traduit ici par Yves Bonnefoy, tâchent de mettre en mots quel obscur instinct pousse les femmes à farder leur visage. Elles sont nombreuses et variées, les recettes que l'humanité a trouvées pour s'embellir, et ce, depuis des âges fort anciens. En 1984, pour l'émission La matinée des autres, Jacqueline Kellen proposait de nous révéler quelques secrets de beauté ayant eu cours du Mexique des Aztèques à la Hongrie contemporaine, en passant par l'Égypte des pharaons. Un voyage diffusé pour la première fois sur France Culture le 20 novembre 1984.
La matinée des autres. Secret de beauté. Une émission de Jacqueline Kellen. Avec Christian Jacques, égyptologue. Jacques Soustelle, professeur à l'école pratique des hautes études. Marguerite Cardoche-Enderlin, sumérologue. Françoise Grund, de la Maison des Cultures du Monde. Simone Weisbard, ethnologue. Hélène Clauderer, spécialiste des soins du cheveu. Marilène Delbourg-Delfis, écrivain.
Supposez que l'État français demande en paiement d'impôts des produits de beauté. Ça paraîtrait étonnant, n'est-ce pas ?
Jacques Soustelle.
Or, c'est ce qui se passait dans l'État aztèque. En effet, les élégantes de Mexico, qui avaient un teint jaune-brun assez foncé, cherchaient à l'éclaircir et avoir un teint plutôt jaune clair, assez joli d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans les manuscrits anciens qui représentent les petites scènes, les hommes sont toujours peints en brun et les femmes en jaune clair. Eh bien, ce jaune clair qui s'appelait tecosahuitl, c'était une sorte de terre que l'on extrayait dans certaines régions du Mexique. À telle enseigne qu'il y avait une ville qui s'appelait Tecosautla, c'est-à-dire la ville de l'onguent jaune, n'est-ce pas ? Il y a le mot cosawic qui veut dire jaune. Et toutes les provinces de l'Empire aztèque payaient un impôt à la capitale, et cet impôt, c'était pour cette ville-là une certaine quantité d'onguent jaune. Et de cette façon, les femmes élégantes, en tout cas, s'éclaircissaient le teint. De même qu'il était considéré comme très élégant et même un peu excessif de mâcher du chewing-gum. Le chewing-gum, qui s'appelle chicle en espagnol, s'appelait tzictli en aztèque, n'est-ce pas ? Le mot nous est venu de l'aztèque. C'était une gomme. Et une femme qui se promenait dans la rue en mâchant du chiclet était censée, disons, avoir des mœurs quelque peu légères. Alors on se parfumait aussi avec des essences végétales et en se servant d'un encensoir, n'est-ce pas ? On brûlait des parfums dans un encensoir que l'on se promenait autour du corps de façon à s'imprégner de ces parfums.
Une femme qui ne se parfume pas n'a pas d'avenir. Coco Chanel.
Les Mayas avaient certaines idées sur l'esthétique qui nous paraissent surprenantes, mais il faut prendre chaque peuple comme il est, n'est-ce pas ? D'abord, ils déformaient le crâne des enfants de la noblesse, bien entendu, puisque pour être distingué, il fallait avoir un crâne en pain de sucre. Alors on obtenait ce résultat en enroulant autour du crâne des tissus, n'est-ce pas, ou quelques petites planches. C'est représenté sur une fresque de la ville maya de Bonampa qu'on voit un petit garçon porté sur les genoux par sa nourrice et qui a le crâne enveloppé comme ça. Ça, c'est une très très vieille pratique, puisque les Olmèques, qui ont été les premiers civilisés du Mexique il y a 3000 ans, ont pratiqué la déformation du crâne comme nous le voyons par leurs statuettes, n'est-ce pas ? Tous les personnages distingués ont ce crâne avec une forme tout à fait étonnante. Et puis alors, il y avait aussi une chose curieuse, c'est qu'on recherchait le strabisme. On cherchait à ce que les gens louchent, hein, tant soit peu. Et pour obtenir ce résultat, on accrochait aux enfants un petit pompon de tissu au milieu du front et à la racine du nez, de sorte que l'enfant, regardant avec ses deux yeux convergents le pompon en question, devenait de ce fait louche. Eh bien, il faut reconnaître qu'il y a un relativisme dans les appréciations sur la beauté. Il y avait aussi une curieuse habitude qui était de se teindre les dents, soit en rouge, soit en noir. Alors, en rouge, c'était avec la cochenille. Vous savez, cette petite bête qui vit ou qui vivait sur les cactus, sur les nopals, et qui a été d'ailleurs à une certaine époque un objet de commerce tout à fait important, donnant une jolie teinte rouge foncé. On se teignait donc les dents comme ça, ou alors on incrustait dans les incisives des petits fragments de turquoise, généralement, et qui donnaient un sourire vert, et c'était considéré comme particulièrement élégant.
Pour avoir des dents très très blanches,
Françoise Grund.
Alors, on peut se servir d'oseille sauvage. On fait des petits paquets d'oseille et on se frotte les dents. C'est tout simple et ça marche très bien si on supporte l'acidité. Alors, par contre, lorsque je suis allée à Cuba, on m'a donné une autre recette pour les dents blanches. Cuba, vous savez, c'est le pays du cigare. Bon, le cigare, c'est une plante, le tabac, c'est une plante. Or, dans certaines maisons paysannes, lorsque les hommes ont fini de fumer un cigare, les femmes recueillent précieusement la cendre, qui est une cendre extrêmement légère et parfumée. Et elles enduisent une petite brosse à dents de cette cendre et elles se frottent les dents. Et effectivement, dans certains villages, les Cubaines ont des dents très très blanches. Et au Maroc, pour les dents blanches et les gencives très rouges, on utilise le souak. C'est une écorce d'arbre qui est ficelée en petits paquets qu'on achète sur les marchés. Ça a bon goût, c'est un petit peu amer. Et puis, on s'en sert pour se frotter les dents. Les gens ont toujours un petit bout d'écorce dans leur poche alors qu'ils mâchonnent et dont ils se frottent en permanence. Ça fortifie aussi les gencives. Au Maroc et en Afrique noire également, il y a une autre plante qui sert aux soins des dents. On appelle ça les cure-dents du prophète. En fait, c'est de la grande carotte sauvage séchée dont les petits filaments servent de cure-dents. C'est très très parfumé et cette herbe-là a des vertus désinfectantes et en même temps, elle n'abîme pas les dents puisque la petite tige est assez délicate.
Thank you.
il n'y avait pas que les Aztèques, n'est-ce pas ? Il y avait une multitude de populations diverses qui étaient mélangées dans ce creuset, dans ce melting pot qui était l'Empire. Et il y avait par exemple les Otomis, ce sont des Indiens chez qui j'ai vécu 2 ans et que je connais très bien, qui étaient considérés un peu d'un œil un peu méprisant par les Aztèques, qui étaient très snobs, n'est-ce pas ? Les Aztèques de Mexico. Alors, ils voyaient les Otomis d'un œil un peu torve, mais il n'empêche que certaines modes, même Otomis, pénétraient jusque chez les Aztèques, quelquefois. Alors, quelles étaient ces modes ? Eh bien, elles étaient très colorées. Alors, les femmes Otomis, par exemple, elles se collaient des plumes rouges sur les bras et sur les jambes. Et puis, elles se tatouaient en bleu. Ça nous a été décrit par un des chroniqueurs de l'époque, avec des petits ciseaux en obsidienne, n'est-ce pas ? Elle se faisait des entailles dans lesquelles on versait une encre, n'est-ce pas ? Et on obtenait des petits dessins très soigneux. Et enfin, c'était très coloré, n'est-ce pas ? Alors, quelquefois, les élégantes de Mexico adoptaient certaines de ces modes. Et puis, aussi, on trouvait que c'était excessif. Enfin, il y avait tout une dialectique, si vous voulez, pour cela. La peinture du corps était pratiquée souvent, d'ailleurs dans tout le Mexique, avec des cachets en terre cuite, représentant toutes sortes de choses, des hiéroglyphes ou des personnages, ou souvent des singes. Je ne sais pas très bien pourquoi, peut-être parce que le singe était un symbole de gaieté. Dans l'ancien Mexique, on considérait que tous les gens qui étaient nés, notamment un jour singe, puisqu'il y avait des jours qui s'appelaient singes, tu vois, au Somatli, ces gens-là devenaient des chanteurs, des danseurs, des musiciens, qui étaient de caractère gay. Alors on imprégnait ces cachets avec une encre et on les tamponnait sur le corps de façon à faire un tatouage lavable, en évitant l'inconvénient du tatouage incrusté dans la peau.
Le henné, bien sûr, c'est une plante très très intéressante parce que c'est une plante sacrée. C'est une plante de santé, mais c'est aussi la plante qui sert à tous les rituels de mariage et de fête. Alors, le henné, bien sûr, tout le monde connaît maintenant les vertus pour les cheveux. Mais ce qu'on connaît moins, ce sont les vertus pour la peau. Le henné empêche les eczémas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on en enduit les paumes et les plantes des pieds des enfants et aussi des jeunes mariés. La cérémonie du henné se pratique dans tous les pays musulmans, mais celle que je connais le mieux se déroule au Pakistan, dans la maison de la fiancée, et elle peut durer toute la journée. Alors, la mère de la fiancée prépare la veille la pâte de henné avec des tas d'ingrédients et elle mêle un tout petit peu d'antimoine dedans. Et puis, la jeune fille, lavée, épilée, s'installe sur un siège spécial et elle tend ses mains. Et avec des petits bâtons, on commence à lui enduire les paumes et le dessus de la main aussi, jusqu'à la deuxième phalange. Et il y a des artistes qui font des motifs qui ont tous une signification. Le henné sur la paume des mains signifie protection du corps, mais aussi fécondité. Pendant que le henné sèche, ce qui peut prendre plusieurs heures, on appelle des musiciens. Les musiciens chantent des chansons spéciales qu'on appelle chansons de henné. Et on apporte des friandises à la mariée. Les friandises sont des fruits secs comme les amandes, les noix, les choses comme ça, qui font grossir la poitrine et qui ont aussi des vertus de fécondité. Et puis ensuite, on lave les mains et les paumes de la mariée et on laisse encore sécher, on parfume avec de l'eau de rose. On l'asperge d'ailleurs tout entière. Et puis dans certains autres pays arabes, on procède un petit peu de la même façon, mais en Tunisie, par exemple, lorsque la main colorée est sèche, on la recouvre d'un délicieux petit tissu, d'une petite tapisserie rouge avec des motifs blancs, qui sont aussi des motifs qui reproduisent un petit peu le dessin sur la paume des motifs de la fécondité.
au Mexique, ils ne connaissaient pas d'alcool. Donc, ils ne pouvaient pas faire des parfums en dissolvant des fleurs ou d'autres éléments de ce genre. Je crois que ce dont ils se servaient, c'était de fleurs elles-mêmes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, d'encens, n'est-ce pas, et de fumigation. Les hommes comme les femmes, les hommes étaient extrêmement soucieux de leur apparence. Du reste, nous avons par chance une sorte de manuel du savoir-vivre qui s'appelle le Huehuetlatoli et qui est adressé aux jeunes gens, donc aux hommes, n'est-ce pas, et qui leur donne des conseils extrêmement précis sur la manière de se comporter, de manger, de se tenir à table, de saluer les supérieurs et les inférieurs, de se comporter envers les femmes, etc. C'est très amusant d'ailleurs. C'est tout à fait le manuel du, vous savez, ce qu'on appelait autrefois la civilité puérile et honnête. C'est tout à fait ça. Et puis alors, j'ai là sous les yeux justement un passage des description en aztèque que nous avons, mais je l'ai traduit en français naturellement, sur les femmes que l'on appelait les ahuyanime, qui veut dire les femmes parfumées. C'était des femmes que nous appelons, faute de mieux, des courtisanes, mais en réalité on ne sait pas très bien quel terme français ou d'un langage moderne pourrait correspondre. C'était des jeunes femmes qui rendaient plus agréable la vie des jeunes guerriers, n'est-ce pas ? Et c'était reconnu, c'était très bien vu. D'ailleurs, elle dansait sur la place principale de Mexico avec les jeunes guerriers, même en présence de l'empereur. Donc. Et alors, les Espagnols ont vu ça d'un œil très défavorable. Mais voilà ce que dit l'informateur aztèque, n'est-ce pas ? Elle se farde avec un onguent jaune appelé achine qui lui donne un teint resplendissant. Et quelquefois, elle se peint le visage avec des fards. Elle a également pour habitude de se teindre les dents avec de la cochenille et de laisser flotter ses cheveux pour plus de beauté. Elle se parfume avec un encensoir odoriférant et elle se promène en mâchant du tzictli et en faisant résonner ses coups de dents comme des castagnettes. Donc, il faut dire que nous avons affaire à une société qui est raffinée, où il y a un souci considérable de beauté, de luxe. Cette femme se soigne et s'habille avec tant de soin qu'elle paraît une fleur. Et pour se préparer, elle se regarde d'abord dans son miroir, car il y avait naturellement des miroirs, nous en avons fort heureusement, n'est-ce pas ? Elle se baigne, se lave et se rafraîchit afin de plaire. Ah oui, elle se baigne. Alors, le bain, c'était surtout le bain de vapeur. C'est exactement le sauna, ce que nous appelons le sauna maintenant du mot finlandais. On l'appelait temazcal, c'était le bain de vapeur. Et encore aujourd'hui, si vous allez dans un village nahuatl au Mexique, vous verrez à côté de chaque maison une petite hutte qui est le bain de vapeur, le temazcal, n'est-ce pas ? C'est un usage encore très répandu.
Quand ce vint le soir que je fus au bain, le cœur me faillit. Et je me pâmais. Joinville, 13e siècle.
Mais il y avait le bain froid, le bain dans les rivières ou dans les lacs. Un des conquistadors et espagnol qui s'appelait Andrés de Tapia a écrit des mémoires dans lesquels il dit la chose la plus étonnante qu'il ait vue, c'est que l'empereur Moctezuma se baignait deux fois par jour. Chose qui, en Europe, était absolument inconnue, n'est-ce pas ?
Baignez-vous si on vous l'ordonne. Autrement, ne prenez qu'un bain par mois au plus. Il y a je ne sais quoi d'oisif et de mou dans le goût de s'établir ainsi au fond d'une baignoire qui sied mal à une fille. Comtesse de Brady, 1838.
Alors, il y avait deux sortes de savons, en quelque sorte. Il y avait un fruit, d'un arbre que les Espagnols ont appelé l'arbol de jabón, l'arbre de savon, que l'on appelait copalchocotl. Et puis, une plante qu'on appelle saponaria americana, son nom l'indique bien. Et alors, on se lavait avec ça, on se lavait le corps, on se lavait les cheveux. D'ailleurs, aujourd'hui, les Indiennes se lavent les cheveux très fréquemment.
Le cheveu ayant toujours été une parure, la femme l'a ressenti comme telle depuis les premiers temps et a toujours cherché dans son environnement, dans les substances, les plantes, les onguents, pour arriver à les traiter, à les rendre plus beaux et à les changer.
Hélène Claude-Herrère.
Alors on peut remarquer que certaines choses que nous découvrons maintenant, comme par exemple les cendres, existent depuis la nuit des temps. Les Égyptiens utilisaient déjà les cendres. Chez les Hébreux, par exemple, on utilise aussi bien les cendres animales que les cendres végétales. C'est-à-dire qu'en fait, la combustion des végétaux était utilisée en bain sur tout le corps parce qu'il y avait une grande similitude entre les soins de la peau et les soins des cheveux. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on se rend compte que la baie de laurier est utilisée depuis les Égyptiens et également a été utilisée par les Hébreux pour les soins de la peau et des cheveux. C'est-à-dire qu'on prenait les baies de laurier, on les faisait cuire pendant des heures et des heures jusqu'à temps que les parties, la partie aqueuse de la plante disparaisse. Et avec une très très longue décoction comme ça, il restait à la fin une espèce de macérat huileux dont on se servait, la même chose en onguent pour les cheveux, pour la peau, et qui servait également de shampoing, puisque le shampoing, c'est une invention très très récente.
Laver souvent les mains, rarement les pieds, jamais la tête. Médecin de l'école de Salerne, 9e siècle.
Par exemple, l'ortie, il y a des éléments qui sont extrêmement stimulants et vasodilatateurs, ce qui permet d'avoir une irrigation du cuir chevelu qui est plus intense. Donc l'extrait d'ortie, quand on arrive à le mélanger par exemple à un bois de Panama pour un lavage de cheveux, est fantastique parce que en ce qui concerne les cheveux, il permet d'enlever les impuretés, c'est-à-dire la poussière ou autre substance. Et en ce qui concerne le cuir chevelu, il crée une vasodilatation relative et en même temps, donc, il stimule le cuir chevelu. Tout ça, les anciens le savaient d'une façon complètement instinctive.
Les Indiens sont extrêmement peu pileux, si j'ose m'exprimer ainsi, et ils considéraient ça comme très laid, sauf, c'est d'ailleurs un parallèle amusant avec la Chine ancienne, les vieillards avaient une barbe très clairsemée qu'on laissait pousser, qui était un signe de sagesse. Car contrairement à notre société, on y respectait beaucoup les vieillards et on considérait que l'âge était un témoignage ou plutôt une garantie de sagesse. Donc il y avait ça. Mais chez les jeunes, naturellement, et même chez les moins jeunes, il ne fallait pas avoir de moustache, de barbe, etc. Alors il y avait la pince à épiler, bien sûr, qui est une chose générale du monde américain ancien, surtout chez les Péruviens. Alors là, dans toutes les tombes péruviennes, vous trouvez des pinces à épiler ravissantes en or, n'est-ce pas ? Mais on en trouve aussi au Mexique. Et d'ailleurs, chose frappante, dans les régions qui sont sur le Pacifique, et où probablement il y a eu une influence du Pérou par les négociants qui remontaient le long de la côte. Alors on trouve des pinces à épiler en cuivre surtout. Et puis alors il y avait la méthode employée par les Mayas. Quand les enfants étaient encore tout jeunes, les garçons, on les ébouillantait, si je peux dire, avec des serviettes très chaudes trempées dans de l'eau bouillante, ce qui, paraît-il, empêchait la crue des poils de barbe ou de moustache.
On détruit les cheveux qui avancent un peu trop sur le front en appliquant dessus un bandeau trempé dans du vinaigre dans lequel on a délayé de la fiente de chat. On attribue la même vertu au foie de thon pourri, à la poudre de cloporte et à toutes les autres espèces de vésicatoires. Manuel de la toilette et de la mode, 1771.
Il y avait des coiffeurs. et qui tenait boutique, un peu comme les barbiers d'autrefois chez nous, dans le marché. Nous avons la description par Cortés lui-même et par Bernal Díaz del Castillo du grand marché qui se tenait à Tlatelolco, là où se tient aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. Et c'était le plus grand marché de l'agglomération de Mexico, où il y avait des rues pour les poteries, des rues pour les meubles, des rues pour la nourriture, etc. Et il y avait des restaurants en plein air et des coiffeurs qui coupait les cheveux, qui vous arrangeait très bien.
Nous avons dans la civilisation sumérienne certains documents concernant surtout le mariage sacré. Comment préparait-on la déesse, la prêtresse qui allait se marier avec le grand roi?
Marguerite Cardo-Chanderlin.
Par exemple, à l'époque de Shulgi ou même avant, à l'époque pré-sargonique, c'est-à-dire 2200 ou même 3000 avant Jésus-Christ, nous avons des documents de Shurupa, que de Nippur aussi, trouvés à la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive plus tard. Et après déchiffrement, nous avons découvert que la déesse, la prêtresse, a été habillée, a été préparée spécifiquement. Alors comment c'était ? Tout d'abord, l'huile de cèdre était extrêmement aimée et adorée par les Sumériennes. Et la prêtresse a été baignée, lavée. Ils connaissaient le savon, les Sumériens. Et après, enduit de l'huile de cèdre. Ainsi son lit et le sol aspergés. Et elle était dans une chambre fait de bois de cèdre blanc, et tout autour, il y avait des parfums de cèdre. Il paraît que le cèdre avait une propriété aphrodisiaque en même temps. Alors, donc le mariage sacré se déroulait dans le sanctuaire de la déesse, notamment Inanna, elle s'appelait Inanna, donc cette déesse, et elle va s'installer après au palais de son mari, le roi. Le palais s'appelle la maison de vie. Et vie veut dire santé en sumérien, et donc nous avons certaines plantes qui vont aider à la préparation et à la sauvegarde de la santé. Alors, on parle de l'huile de palmier pour les cheveux, l'huile de tamaris pour le cou, et pour la poitrine aussi, l'huile de tamaris. On parle de sa couche, la couche de Inanna, couverte de tissu bleu et aspergée de l'huile de cèdre. On parle de bain de jonque et de cèdre. On nous décrit un bain liminaire de la déesse et comment, sur le point de rencontrer son futur, elle revêtit des habits de circonstance et comment elle passe un produit à base de jeunes pousses de roseau. Alors, on ne sait pas exactement comment était la préparation. On sait aussi que les femmes utilisaient des sucres ou du jus de laitue et de concombre et des cataplasmes de pommes en tranches et de jus de date. Alors, évidemment, l'argile, puisque c'est en Mésopotamie où nous nous trouvons, et toutes les tablettes étaient faites sur l'argile, évidemment, ils avaient énormément d'argile brune, argile verte et argile rouge. Et alors, il y a toute une nomenclature de la différenciation, de l'utilisation de ces argiles pour telle ou telle circonstance, contre tel ou tel bouton, ou si la peau gratte en même temps, si la peau rougit. Alors, pendant 3 jours, pendant 7 jours, en fait, il y a toujours des chiffres magiques qui aident, avec des sucres d'ananas, par exemple, argile ananas. Et nous savons que nos esthéticiens d'aujourd'hui utilisent exactement le même produit qu'il y a quand même 6000 ans. Les utilisaient, découvraient, ainsi que le concombre. Nous savons que pour la peau, c'est absolument excellent, parce que c'est astringent, ça resserre la peau et ça empêche donc la formation des rides. Alors, comment se lavait-elle les cheveux? Il paraît qu'elle mettait beaucoup de bière et de lait aussi sur les cheveux. Par exemple, Inanna chante dans un chant nuptial: mes charmes, c'est ma chevelure, pareil à une laitue, la plus belle des plantes. Alors, c'est une laitue qui s'appelle Gakkal, c'est une variété de laitue. Alors, elle dit aussi que ma mère me verse sur la tête de la bière fine, de la bière onctueuse, et je lui verserai, moi, de mon lait de plante. Alors, nous ignorons complètement qu'est-ce que c'est le lait de plante. Nous avons du mal à identifier ces plantes parce que nous n'avons pas le correspondant en français. Nous avons le déterminatif plante et après il y a un signe. Alors ce signe montre si la plante était épineuse, si la plante est à broyer, si la plante est à accueillir à la nouvelle lune, ou c'est la racine ou la tige ou la feuille ou les graines qui sont à utiliser. Mais savoir si c'est genévrier exactement ou une sorte de baie sauvage, c'est difficile à vraiment s'engager. Elles utilisaient aussi, les femmes sumériennes, de la farine blanche et de la farine noire pour enlever le gras de la peau. Et on se faisait des bains de pieds avec du lait d'orge pour les pieds abîmés. Après avoir lavé au savon, il paraît que c'était bon contre les mycoses aussi et contre toutes sortes de maladies de peau.
Ce sont les chaussures qui estropient nos pieds. Il faudrait n'en point porter. La chose est impossible. Il faut donc, dans ce cas, faire soigner ses pieds ou se soigner soi-même. Le pédicure de Louis XVI.
Nous avons trouvé dans les tombes de l'époque Ourtois aussi des crèmes et des fards et des pinceaux et des... quelque chose comme une peinture noire, probablement pour les cils et pour les sourcils. Elles faisaient très attention à leurs ongles aussi, parce que c'était un reflet de vitalité. Cheveux, ongles, l'éclat des yeux et bon, la qualité de la peau, évidemment.
Le col se fait avec effectivement de la poussière d'antimoine, mais avec du clou de girofle pilé. Et dans certaines familles, on ajoute des plantes dont on ne donne pas le secret. Le col, bien sûr, est un élément cosmétique très très important, mais c'est aussi un élément de protection. Le col sert à éclaircir le regard et à chasser certains microbes qui pourraient venir se poser sur les yeux. On en met dans certains pays, en Inde par exemple, au Maroc aussi, aux enfants très jeunes. On voit des petites filles de 1 an et demi ou 2 ans aux yeux agrandis par le col. Ça n'est pas du tout un maquillage dans ce cas-là, c'est simplement une protection contre le trachome parfois, et souvent ça marche.
La beauté pour les anciens Égyptiens, c'est très important. Il y a un mot, néfer, qui est un mot qu'on retrouve à peu près partout, qui signifie beau, bon, parfait, bien accompli, bien travaillé.
Christian Jacques.
Et la beauté, il faut absolument la réaliser parce qu'elle est issue en fait du temple. Et pour bien comprendre comment ça fonctionne en Égypte, il n'y a qu'à aller à être fou. Ou dans ce temple qui est ptolémaïque, donc de la fin de l'Égypte, mais qui reprend tous les temples antérieurs, il y a un laboratoire. Dans ce laboratoire, il y a une liste de recettes, produits médicaux, produits de santé. Parce que alors, ça, c'est évidemment le premier point qui est, je crois d'ailleurs pas propre à l'Égypte, mais à beaucoup de civilisations anciennes, c'est qu'on ne différencie pas vraiment les soins de beauté des soins tout court. En même temps, ce qui est important, c'est que les Égyptiens accordaient une très très grande importance aux odeurs. D'abord parce que c'est ainsi que se célébrait le mariage sacré. Par exemple, quand Hatshepsut, la fameuse reine pharaon, explique comment elle a été intronisée, comment elle a été habitée par le dieu, eh bien, pour désigner l'union avec le dieu, on parle de l'odeur divine. Alors ça, c'est la première de toutes les recettes, c'est qu'il faut être agréable d'odeur sur soi-même, dans ses vêtements et dans sa maison. Alors je vais vous donner la première recette, puisqu'il y en a une, c'est une fumigation. Il faut donc que vous preniez de l'oliban sec, des graines de pin pignon, un peu de résine de térébinthe, quelques souchets odorants, de l'écorce de cinnamon et du melon. Vous broyez tout ça, vous réduisez en masse, vous faites cuire à feu doux, et après, eh ben, vous répandez ça sur vous-même, sur vos vêtements et dans la maison. très important, la laine. La laine. Alors la laine des femmes, là, il y a une... Surtout des femmes, d'ailleurs, il parle peu des hommes, je ne sais pas pourquoi. Là, il faut prendre des plantes aromatiques, précise pas, tout ce que vous voulez, les tremper dans du miel, faire une petite décoction et fabriquer des pastilles que l'on suçait. Alors là aussi, c'est santé, en même temps, c'est digestif, et ça donne donc une haleine merveilleuse, une haleine emmiellée, dirons-nous. Il faut dire qu'on est toujours proche quand même d'un petit côté religieux et d'un petit côté ésotérique quand même, et on le reverra avec les onguents, mais je pensais aux soins de l'oreille. On accordait une très très grande importance à l'oreille, parce qu'elle était le réceptacle du divin. Et alors on disait en Égypte que la mort rentrait par l'oreille gauche et la vie par l'oreille droite. Il était donc très important d'avoir les oreilles toujours bien propres, bien nettoyées, en bon état de fonctionnement. Les maladies de l'oreille donc nécessitent des soins, de façon à ce que le souffle de la mort ne pénètre pas par l'oreille gauche. Donc, vous voyez, ces soins corporels, par exemple, le matin, il y a tout ce problème de la laine, de l'oreille, de l'œil, du nez, etc. C'est un petit peu comme si on ouvrait son propre temple. Parce que la statue du dieu, on l'habille, on la vêt, on l'oint, on la nettoie, et on se fait la même chose à soi-même. Il y a donc une corrélation toujours permanente, même dans ce niveau un petit peu matériel, entre l'acte divin et puis l'acte humain. Alors, il y a une autre chose, par exemple, autre soin corporel qui est à la limite également du médical, c'est qu'il faut se rincer la bouche, assez souvent, mais pas avec de l'eau, avec du lait. Parce qu'on rattache ce lait au lait céleste, au lait de l'immense vache céleste qui tous les matins fait naître le soleil, permet aux étoiles de briller, etc. Là encore, vous voyez, rattachement d'un petit problème religieux à finalement des soins corporels. Alors bien entendu, les élégantes égyptiennes avaient affaire pratiquement tous les jours aux pédicures, aux manucures et aux masseurs. Tous ces corps de métier étaient parfaitement représentés. Et puis, alors, il y a peut-être une recette que je vous donne comme ça au passage, avant qu'on passe à des soins de beauté plus accentués, c'est celle de la contraception féminine, car c'est une découverte qu'on a faite. La famille égyptienne, idéale, c'est deux enfants, une fille et un garçon. Bon, et ça, là-dessus, on a peu évolué. Mais, en revanche, les très grandes familles étaient tout à fait déconseillées, même par les dieux. Et il y avait une recette qui était la suivante. Quand même, c'est très efficace, puisque c'était faire qu'une femme cesse de devenir enceinte pendant 1, 2 ou 3 ans. Et alors, il fallait prendre de l'acacia, de la coloquinte, des dattes. On broyait tout ça dans un vase d'une capacité d'un demi-litre, rempli de miel, et on en imprégnait ensuite un tampon. Et alors, avec cela, normalement, nous avions donc une contraception naturelle parfaite.
Je conseillerais aux femmes, lorsqu'elles viennent à se demander quel est l'effet des années sur leur charme, de consulter moins leur miroir que le visage de leur contemporaine. Marie Dagou.
La femme égyptienne était tout à fait coquette. Hein. Ça, il faut vraiment se représenter des très grandes élégantes. D'abord parce que la vie en Égypte a toujours été une vie de banquet. Il y avait toujours beaucoup de fêtes, depuis l'ancien empire jusqu'à la fin de l'Égypte. Pratiquement, on sait qu'il y avait plus de 100 jours de fêtes par an, heureux égyptiens, donc chômés. Donc on recevait beaucoup, entre amis, bon, pour des réceptions aussi bien officielles que privées. Il était donc essentiel d'être toujours bien habillé, même parfois simplement. Et ceci d'ailleurs, et c'est important à tous les niveaux de la population. Les cheveux, c'est très important. D'ailleurs, dans les papyri médicaux, dans les papyri qui parlent de santé, dans la présentation, je crois que c'est vraiment les cheveux et les yeux, ce sont les deux points qui sont le plus souvent traités. Alors, les cheveux, bon, il y a une mode qui a évolué, c'est certain, c'est-à-dire qu'à l'ancien empire, au temps des pyramides, les femmes aimaient les cheveux courts. En revanche, au Nouvel Empire, alors Thèbes, l'immense Thèbes, Karnak, Luxor, bon là, on commence à aimer des mèches beaucoup plus longues, bon, évolution de cheveux naturels. Les Égyptiennes ont toujours aimé beaucoup, d'ailleurs, porter leurs cheveux naturels, mais il y avait un art de la perruque extraordinaire. Ça a été quand même le grand art de la perruque égyptienne, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on porte toujours perruque pour sortir, hein, pour les réceptions, pour les fêtes, ça, il n'y a pas de doute. Alors, ça va de la perruque hyper compliquée, avec des tresses, avec des nattes. Alors, il y en a une qui est célèbre, c'est le petit lever, parce que c'est tout à fait ça, d'une princesse qui s'appelait Kawit, qui a vécu sous la 11e dynastie. Et alors, on la voit sur un des plus grands reliefs connus du musée du Caire. Il y a son échanson qui lui donne à boire. Elle prend donc la coupe de la main droite, elle se regarde dans le miroir, dans un très beau miroir en forme de croix de vie, ce qui est intéressant d'ailleurs. Et derrière elle, eh bien, sa femme de chambre lui finit de lui tresser une très belle perruque avec des croisillons très compliqués. Mais les jeunes filles, par exemple, pouvaient simplement porter une fleur sur la tête. Ça servait également de petite perruque, si j'ose dire. Alors, bien entendu, grande crainte, mais ça n'a pas beaucoup changé, c'est de ne pas perdre ses cheveux, qu'ils ne blanchissent pas. Et alors là, il y a toute une série de recettes, je pourrais pas vous les citer toutes parce qu'elles sont très compliquées. Bon, d'abord, il y avait une coutume qu'on a perdue, je crois complètement, qui était lors des dîners de porter sur la tête un cône parfumé, un cône d'onguent. On a souvent écrit que c'était du beurre, mais c'est pas du beurre. Hein. C'est pas du beurre, ce sont des graisses effectivement végétales, mais avec surtout des essences de plantes, des essences de fleurs et beaucoup de myrrhe. Et alors, au fur et à mesure de la soirée, ce cône qu'on portait sur la tête fondait, disons, légèrement, et répandait des effluves et des odeurs merveilleuses. Bon, alors c'était, en plus, normalement, ça soignait les cheveux. Alors, il y avait une série de pommades invraisemblables pour les soins capillaires. Je pense qu'il y avait des soins là-dedans, on était tout à fait près de la phytothérapie, hein, il n'y a pas de doute. Bon, et puis il y avait des côtés magiques aussi, toujours en Égypte, tout ça est toujours mélangé. Et le produit majeur, alors j'espère que ça servira aux élégantes d'aujourd'hui, le produit majeur pour les anciennes égyptiennes, c'était le ricin. Et on employait énormément le ricin, on broyait les graines de ricin, on les réduisait en masse et on les transformait en huile. Et avec ça, on soignait la tête.
Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlée à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Baudelaire.
Le remède contre la calvitie, là, j'ai peur qu'il soit assez difficile à employer, je vais quand même vous le donner, c'est un mélange de graisse. Alors, il faut prendre un peu de graisse de lion, d'hippopotame, de crocodile, de chat, de serpent et de bouquetin, on réduit tout ça en masse, on broie et on fait une onction. Là, évidemment, c'est plus compliqué. Alors, on a un remède qui a totalement réussi, qui est celui de la reine qui s'appelait Chéché, pour son fils, un pharaon nommé Téti. C'est pas le grand Téti, c'est un autre petit pharaon. Et alors, cette reine, qui a donc fait repousser les cheveux sur la tête de son pharaon chauve, a employé un peu de pâte de chien, de noyaux de datte et de sabots d'âne. Elle a fait cuire tout ça dans un pot avec de l'huile et elle a donc fait l'onction. Là aussi, peut-être compliqué. À côté de ça, par exemple, un remède pour conjurer la pelade, c'est ce qu'on appelle techniquement l'alopécie en air. Bon. Alors, pour conjurer ça, on trouve une formule suivante. Ô toi qui es lumière, ne bouge pas de ta place. Celui qui combat la fente, a-t-on, prends garde au maître du sommet de la tête. Formule religieuse, quasiment initiatique, sortie en droite ligne des textes funéraires, et qu'on retrouve dans une formule de soins de beauté. Mais là, nous sommes en Égypte, c'est-à-dire qu'à côté du matériel et du concret, on retrouve le spirituel, parce que tout ça n'est pas du tout, en fait, séparé. Et alors, la formule donc contre l'alopécie, qui vient après cette invocation religieuse, eh ben, pour lutter contre ça, il faut un peu de creux jaune, un peu de poudre d'albâtre, du miel et une graine qu'on appelle œil du ciel. Et alors là, malheureusement, comme on ne sait pas ce que c'est que cette graine, je crois que cette formule n'est plus utilisable. Voilà, si vous voulez lutter contre le blanchiment des cheveux, alors vous prenez un peu de sang de bœuf noir dans de l'huile, avec un peu de corne de gazelle, et puis du concombre. Marqué, il faudrait peut-être réessayer tout ça, parce que quand on voit parfois les produits aujourd'hui de phytothérapie, sait-on jamais. Alors, au passage, je vous signale que dans le cas de querelles amoureuses entre deux femmes, il y a une chose que les magiciennes égyptiennes faisaient volontiers, qui était de faire tomber les cheveux de leur rivale. Alors, le remède est le suivant, il faut prendre un verre, le cuire et le bouillir dans de l'huile et le mettre sur la tête de la femme que l'on n'aime pas. Mais elle a un antidote qui est de l'écaille de tortue et de la graisse d'hippopotame. Alors, je dis ça avec certains sourires, car je crois que les Égyptiens eux-mêmes le disaient avec un certain sourire. Car là, nous avons justement, disons, de la magie pratique un peu simple. Mais bon, ça se trouve aussi dans des papyrus où ça ne manque pas d'humour. Alors, bien entendu, on va très loin dans les espérances de beauté, puisque nous avons dans le papyrus Edwin Smith, qui est un très grand papyrus médical, le plus connu, un début de chapitre extraordinaire, ça commence comme ça. « Commencement du livre de la transformation d'un vieillard en jeune homme », un peu pour les hommes quand même, avec donc plus de calvitie, plus de marques de l'âge, plus de rougeur, plus rien. Alors, pour ça, voilà la formule que je donne aussi, parce que... normal que je pense tout de même un peu aux hommes, là. Alors, il faut des gousses de fenugrec dont on sépare les graines. On mélange ces graines et ces gousses en fin débris, on ajoute de l'eau, on fait chauffer la pâte, qui devient fluide donc, dans un chaudron. Après, on fait refroidir toute cette masse, il faut la laver au fleuve, dans le Nil, pas n'importe où, et on la laisse sécher au soleil. Ensuite, on la pulvérise sur une meule, on la fait de nouveau chauffer, et on la mêle à l'eau. Et alors là, si tout a bien marché, on voit apparaître à la surface de l'eau de petites nappes d'huile. Alors c'est ça qui est important, là il faut tout de suite arrêter de chauffer, il faut recueillir cette huile avec beaucoup de précaution, on la filtre, on la transvase dans un récipient en albâtre, et ensuite on a cette onction pour transformer un vieillard en jeune homme, que j'essaierai, j'en doute un jour, quand le moment sera venu.
Les yeux sont les fous du cœur. Shakespeare.
En règle générale, le maquillage, c'est effectivement l'œil. Par exemple, il existe du rouge à lèvres, mais uniquement pour les femmes de très très mauvaise vie. L'Égyptienne, qui est une femme fidèle, aimante et tout, ne se maquille pas les lèvres, uniquement les yeux. Bon. Et les hommes, en principe, ne se maquillent pas, mais mettent tout de même du fard, et ceci pour une raison très pratique, enfin, quand on a vécu en Égypte, on le connaît bien, c'est qu'il y a deux types de fard. Il y a un fard maquillage, bon, qui est réservé aux femmes, et un fard soignant et qui surtout éloigne les mouches. Parce que alors, l'une des plaies d'Égypte, il n'y a pas de doute, ce sont bien les mouches, plus tous les insectes de tous ordres, et ces fards étaient en fait des fards médicaux qui avaient comme propriété effectivement d'écarter tous insectes volants fort désagréables. D'un autre côté, il faut reconnaître que tous les Égyptiens se pommadent beaucoup et suilent beaucoup. Et là encore, on sait que ce sont en fait des remèdes et des précautions contre le soleil, contre le dessèchement de la peau, etc. Puisque, par exemple, dans une requête d'ouvriers au travail, dans la vallée des Rois, ils étaient d'ailleurs pas contents, ils étaient en grève, puisqu'ils n'avaient pas reçu leur ration de viande, de pain, etc. Et dans les éléments essentiels, veut dire dans les choses de tous les jours qu'ils demandent, il y a de l'huile à onction, dont ils avaient absolument besoin contre, effectivement, les insectes et autres choses. Alors, l'œil, c'est central, mais là, on rejoint le mythe. C'est-à-dire que s'il y a un mot qui est important en égyptien, c'est un hiéroglyphe, plus exactement, c'est bien l'hiéroglyphe de l'œil, puisqu'il signifie créer. Bon. Et toute création en Égypte passe par l'œil. Donc l'homme a en lui, l'homme et la femme, ont cet œil qui est pour eux la façon un peu de recréer le monde. Il est donc normal d'en prendre le plus grand soin. Et alors le maquillage, le plus beau des maquillages, c'est de prolonger la ligne des sourcils par un petit trait de fard qui va ou jusqu'aux cheveux ou jusqu'aux oreilles. Et là, c'est pas pour rien, c'est parce que quand on trace ça, on reconstitue en fait l'œil sacré, le fameux Zoujat, dont le mot signifie d'ailleurs être saint, être prospère, être en bonne santé, et on se grave donc en quelque sorte, par le maquillage, une sorte d'emblème magique sur son propre visage. Alors inutile de dire que pour appliquer ces fards, là il y avait deux fards, hein, ça c'est très important, il y avait un fard vert qui est à base de malachite, ou de malachite comme vous voudrez, et un fard noir qui est à base de sulfure de plomb ou d'antimoine métallique. Et alors ce fard vert était plus destiné vraiment au maquillage lui-même et à la beauté, alors que le fard noir est curatif. C'est une sorte de remède pour la peau. On répandait ces fards, on les gardait très très précautionneusement sur des palettes, et ces palettes à fards constituent parmi les plus beaux objets d'ailleurs de l'art égyptien. Il y a dans l'acte de se parer, de se rendre beau, de se soigner, une valeur magique. Et ça, évidemment, c'est très, très égyptien. Et on peut penser, par exemple, aussi à ces fumigations d'encens. Pas oublier que l'encens, ça signifie en égyptien ce qui divinise. Donc, si on encense sa maison, si on encense ses parents, si on encense ses amis, on les divinise, on fait sortir d'eux quelque chose qui est immortel. Les secrets des recettes, en fait, appartenaient au temple. Il n'y avait pas du tout de parfumeurs profanes, en réalité, d'industrie, je dirais, privée. Il y avait une industrie d'État, de temple, et toutes les recettes étaient considérées comme des choses suffisamment précieuses, suffisamment importantes, pour être contenues dans les livres de la maison de vie et gravées sur les parois des laboratoires des temples, de façon à ce qu'on s'en rappelle.
Lorsqu'on me dit secret de beauté, moi je pense à des espèces de conventions, de formules qu'on se passe de mère en fille ou de génération en génération.
Marilène Delbourg-Delfis.
Pour le domaine qui me concerne, c'est-à-dire l'histoire de l'apparence, de la mode, des cosmétiques et de la parfumerie depuis le milieu du 19e, l'idée de secret de beauté n'est pas tout à fait pertinente. Je dirais même que la mode contemporaine et l'histoire contemporaine de l'apparence, c'est une histoire de la fin du secret de beauté. Dans la mesure où il s'est agi de communiquer aux femmes des informations sur elles-mêmes, sur la manière de s'habiller, sur la manière de se maquiller, de se parfumer, qui font que ces informations étant publiques, ce n'est plus un secret. Il s'agit désormais pour les femmes d'être habiles, à partir de produits qui sont désormais disponibles pour tout le monde. Le secret est en fait une donnée que les femmes se communiquent dans le secret, dans une espèce de connivence, dans un univers presque de sorcellerie. Et à la limite, les femmes les moins éduquées en apparence peuvent être détentrices de secrets absolument fabuleux. Ce qui apparaît dans l'ère contemporaine, c'est qu'au fond, seules des femmes très distinguées ont non pas des secrets, mais un vrai talent.
Les premiers pays où je me suis intéressée aux sociétés de femmes et où j'ai appris beaucoup de choses par les femmes, c'est en Syrie. En Syrie et au Liban, où j'ai vécu il y a une vingtaine d'années. Et là, nous nous réunissions dans les cours de maison pour bavarder. On bavarde beaucoup entre femmes et on apprend des choses très intéressantes pour faire la cuisine et pour se faire des soins en commun. Et puis après, nous passions dans les hammams. Et la première chose que j'ai apprise, c'est une épilation, l'épilation la meilleure marché du monde. Vous savez que dans tous les pays de la Méditerranée, depuis les Égyptiens anciens et les Romains, le corps de la femme, en particulier des hommes autrefois aussi, mais devait être absolument nu. Le poil était quelque chose de disgracieux, donc à bannir. Alors, l'épilation la moins chère du monde se fait de la façon suivante, grâce au citron et au sucre. Alors, je vous donne la recette. Vous prenez un gros citron et un verre d'eau et un demi-verre de sucre en poudre. Vous mettez le sucre en poudre dans le verre d'eau et vous faites chauffer sur un petit feu. Lorsque le sirop atteint l'ébullition, vous pressez le gros citron en faisant attention à ce qu'aucun pépin ne tombe dedans et à ce qu'aucune petite peau ne tombe dedans aussi. Et puis, vous remuez avec une cuillère de bois et lorsque le mélange épaissit et devient légèrement rose, vous le versez sur la pierre à évier humidifiée ou sur un marbre humidifié et vous attendez quelques secondes que ça se coagule un petit peu. Ensuite, avec un couteau dont la lame a été humidifiée elle aussi, vous travaillez la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne un petit peu molle et flexible. Alors, il y a un truc que font les femmes arabes qui est un petit peu dégoûtant mais qui marche très bien, c'est de cracher un tout petit peu de salive dans ce mélange. Enfin, la pâte devient beaucoup plus efficace. Alors, on travaille à la lame de couteau en tirant bien, comme de la guimauve, jusqu'à ce que ça devienne blanc et élastique. Et lorsque c'est encore tiède, on commence par le bas de la jambe, par petites touches, enfin, petites touches de 3 cm, en remontant, en tirant, en étalant, en remontant, en tirant. Et en une heure, vous vous épilez les deux jambes et l'épilation adoucit la peau et dure 2 mois. C'est fantastique, on fait ça aussi bien dans les cours de maison que dans les hammams.
C'était, ils faisaient venir d'abord tous les parfums gras de l'Orient, servaient de base pour leur mélange. Et Ensuite, leur nard était composé donc de ces aromates dans lesquels ils ajoutaient vraiment n'importe quoi. Ça pouvait aussi bien être de la graisse de saindoux, mais il y avait également des pétales de rose qui étaient broyés, des bains de lait aussi. Et on a eu des écrits sur la femme de Néron, sur Poppée, qui utilisait elle-même des bains de lait, des pétales de rose avec tous les parfums, enfin tous les onguents d'Arabie.
Par quel moyen donner de l'éclat à la blancheur de votre teint? Prenez de l'orge que les cultivateurs de Libye ont envoyé par mer. Dépouillez-la de sa paille et de ses enveloppes. Ajoutez une égale quantité d'herse, délayée dans 10 œufs. De toute façon que le poids de cette orge mondée soit de 2 bonnes livres. Quand ce mélange aura été séché au souffle de l'air, portez-le sous une meule rugueuse pulvérisée par une ânesse lente. Broyez aussi de la corne vive du cerf, de celle qui tombe au commencement de l'année, mettez-en 1/6 de livre. Ensuite, quand le tout sera mélangé en une farine bien menue, passez immédiatement dans un tamis à mailles très serrées. Ajoutez 12 oignons de narcisse sans écorce, pilez d'une main vigoureuse dans un mortier de marbre bien nettoyé, puis 2 onces de gomme avec de la farine de froment de Toscane, sans préjudice de 9 fois autant de miel. Toute femme qui enduira son visage de ce cosmétique le rendra plus brillant, plus lisse que son miroir. L'art d'aimer Ovide.
En Bulgarie, la rose a beaucoup de vertus. On s'en sert en cuisine, on s'en sert en beauté. Tout le monde maintenant connaît l'eau de rose. Les femmes s'en servent comme tonique après leur démaquillage. L'eau de rose est connue depuis la plus haute antiquité. On en fabriquait par décoction déjà au moment de Sumer, au moment de l'Égypte. Les Romains s'en servaient. On s'en asperge pratiquement tout le temps. Elle rafraîchit aussi, elle tonifie. Ce qu'on sait moins, c'est que l'eau de rose est un calmant pour les yeux aussi. On peut s'en servir pour le regard.
Nous avons 3 documents différents qui parlent de l'eau de la reine de Hongrie. Alors, qui était cette fameuse reine? Nous avons un document de 1260. Elle était probablement l'épouse de Béla III, roi de Hongrie, et elle était française d'origine. Alors, le document nous raconte que la composition de cette eau se fait de romarin, de citronnelle, de citron, de sauge et de la lavande. Cette princesse française était probablement Anne Capet. Elle utilisait cette fameuse eau de la reine de Hongrie contre les rhumatismes, les douleurs, pour sa beauté, la fraîcheur du visage, pour sa peau, le rajeunissement, disons. L'autre document nous raconte de 1354 une certaine Élisabeth, reine de Hongrie, qui utilisait cette eau, et c'était à base de fleurs de romarin. Alors, ces fleurs de romarin doivent être digérées, entre guillemets, dans des crottins de cheval pendant 3 jours. Alors, après ce mûrissement, on distille, on mélange avec un zeste de citron, avec de la citronnelle, de la mélisse et de la menthe. Et on ajoute 50% d'eau de rose. On couvre le tout et on fait digérer encore pendant 3 jours. Et après, on distille et on obtient cette fameuse eau qui guérit les rhumatismes et les grandes maladies de polyarthrite, en fait, que nous appelons aujourd'hui ainsi, et en général les douleurs de dos, de la nuque, des tempes.
La beauté est une promesse de bonheur. Stendhal.
L'Amérique précolombienne nous a laissé des collections inestimables de huaco, c'est-à-dire de céramique, de toute beauté, illustrée en noir et en couleur.
Simone Vesbard.
Avec un luxe de détails, une grande variété qui nous montre le démaquillage, les coiffures, Et de plus, nous avons les momies sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et qui, elles, sont restées telles qu'elles étaient le jour de leur mort, c'est-à-dire bien coiffées et bien maquillées. Nous avons des chroniqueurs qui parlent du cinabre de Huancavelica, c'est-à-dire des mines de mercure de Huancavelica, dans le nord du Pérou, à plus ou moins 4000 mètres d'altitude. Là, il y a des mines extrêmement riches en sulfate de mercure, la larme des dieux, qui était appelée ensuite, aux temps incas, Icma, lorsqu'il était très fin et cramoisi, ou Yimpi, de couleur pourpre. Mais n'en avaient que l'usage exclusif les payas, c'est-à-dire les femmes nobles, les vierges du soleil, et bien entendu les femmes choisies de l'Inca, à condition qu'elles soient jeunes seulement, et seulement les jours de fête. Garcilaso, un chroniqueur bien connu, explique l'emploi. On ne le mettait pas sur les joues, mais on traçait une raie large comme une paille de blé, depuis la pointe externe de l'œil jusqu'aux tempes, avec un bâtonnet. À Tiahuanaco, on retrouve l'œil ailé des géants, peut-être dans l'espoir d'acquérir sa vue, la vue du faucon royal, une vue perçante. Enfin, on trouve aussi des références à des masques de beauté, si l'on peut dire, car Garcilaso ajoute que celles qui avaient le teint clair se mettaient, pour qu'il ne s'abîme pas, un petit lait blanc. Malheureusement, il n'en a pas trouvé ou donné la formule, que les femmes gardaient 9 jours et qui, lorsqu'il était séché, se détachaient du visage comme un masque. Nous avons fait des fouilles à Pachacamac, la cité sacrée immense sur la côte du Pacifique, dans laquelle et dans des nécropoles monumentales dorment peut-être 30 000 de momies, dont beaucoup appartenaient à des prêtresses lunaires. Toutes ont le visage rougi au cinabre pour invoquer le retour à la vie et assurer leur immortalité. D'autres ont le visage fardé d'une poudre de coquillage nacré et d'autres enfin, mais beaucoup plus rares, sont fardés de paillettes de mica argentées. À Paracas, dans le sud du Pérou, j'ai vu des momies qui avaient les ongles laqués en rouge, qui appartenaient à ce qu'on appelle les longues têtes. C'était certainement une marque de raffinement.
Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans la manière de s'embellir, dans le choix des ajustements et de la parure, suivre leurs goûts et leurs caprices. Mais si c'est aux hommes qu'elles désirent de plaire, si c'est pour eux qu'elles se fardent ou qu'elles s'enluminent, j'ai recueilli les voix et je leur prononce, de la part de tous les hommes ou de la plus grande partie, que le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoûtante. Que le rouge seul les vieillit et les déguise. Qu'ils haïssent autant à les voir avec de la céruse sur le visage qu'avec de fausses dents à la bouche et des boules de cire dans les mâchoires. Qu'ils protestent sérieusement contre tout l'artifice dont elles usent pour se rendre laides. Et que bien loin d'en répondre devant Dieu, il semble au contraire qu'il leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir des femmes. La Bruyère.
Nous avons trouvé des fards et des onguents, des herbes à embellir dans des tubes de bambou ou même, c'est très astucieux, dans des becs de toucan. Vous savez, le toucan qui a un très long bec devenait un étui pour les fards. Nous avons trouvé aussi de la poudre de maïs très finement pilée avec la houppette pour l'appliquer. Des pinceaux, des pinces à épiler en forme de petites castagnettes, des pinces à cheveux, des miroirs en bronze pour les vierges du soleil de Machu Picchu, des miroirs de pyrite sur la côte, des perruques postiches très nombreuses, des faux chignons, des fausses queues de cheval. C'est ce que Paul Morand a merveilleusement appelé des momies à tête de rechange. Et d'autres, des perruques en fibres d'agave teintes au noir de génipa, enfin des peignes de toutes sortes en épines de cactus, en arêtes de poisson, fixées sur un manche d'os, de bois ou de bambou. Et enfin, suprême secret de beauté, des dents en or. des fausses dents en or et des crocs d'or qui étaient certainement placés dans la mâchoire des prêtres du soleil.
Si les femmes étaient telles, naturellement, qu'elles le deviennent par artifice, elles seraient inconsolables. La Bruyère.
L'autre phare très répandu, mais alors là, pas du tout réservé à l'élite ni à la noblesse, utilisé par toutes les femmes du peuple, comme il l'est encore aujourd'hui, par les indiennes de la forêt vierge. C'est ce qu'on appelle généralement le roucou, qui au Pérou porte différents noms, la chote, l'onoto, l'uruku, et qui scientifiquement s'appelle Bija Orellana. Le rouge de la chioté, c'est la couleur sacrée du soleil, dont on se peint des raies, des bandes peintes sur le visage, sur le corps des femmes et aussi sur le corps des momies. La façon de préparer est de faire tremper les graines dans une cuve d'eau, puis de les sécher, de les éventer, d'en faire une poudre très fine que l'on mélange avec des gommes résineuses ou à défaut avec de la graisse de poisson, de caïman, d'œufs de tortue ou d'huile de palme. Celle-ci est peut-être parfumée, mais les autres ne sentent pas évidemment très bon. Les guerriers, les hommes, s'en servaient, eux, avant de partir en guerre, pour s'en oindre complètement le corps et paraître féroce. Un chroniqueur a dit qu'ils ressemblaient à de vrais diables. Et ils se dessinaient aussi, alors là, pour s'embellir les jours de fête, avec toujours la tchoté, des dessins géométriques et des dessins totémiques.
Pour la Hongrie, nous avons des documents de la part des paysannes, comment elles conservent la fraîcheur de leur beauté. Alors c'est avec des jus de tomate. En Hongrie, la tomate est extrêmement aimée. Ou jaune d'œuf. Dans du jaune d'œuf, on met quelques gouttes de citron et on étale ça sur le visage. Alors il y a beaucoup de farce autour parce qu'il y a un durcissement de jaune d'œuf avec le citron sur le visage et on ne peut pas faire rire la personne. Alors je m'appelle, dans mon enfance, on tournait autour des tantes et des grand-mères pour les faire rire parce que comme ça, ça échouait leur exercice de beauté. Et sinon, il y a beaucoup de préparation à la citronnelle. Et ce qui est intéressant, le romarin est considéré, le romarin et citronnelle sont considérés comme les ginseng européennes. Ce sont des plantes de longue vie et ça remonte les surrénales, ça excite les glandes endocrines. Et en effet, ça donne une jeunesse pratiquée, vous utilisez intérieurement et extérieurement. Sinon, il y a encore le seigle. En Hongrie, on utilise une sorte de bouillie de seigle et c'est contre les rides. Les femmes mettent ça en cataplasme aussi. Et pour les mains et pour les rhumatismes de mains, j'ai vu dans mon enfance des cataplasmes très chaudes placées comme ça.
Porter pendant son sommeil de simples gants de peau blanche rendra la peau blanche et douce. L'art de la beauté, 1879.
La mode des produits à base de plantes, c'est un phénomène complexe. Cette mode dérive de la fin des années 60, une espèce de réaction généralisée à la ville. Donc, si vous voulez, il y a une analyse idéologique à en produire, où on fait l'analyse des mouvements de type écologiste. De là à sombrer dans cette mythologie de la médecine par les plantes à tout crin, de la beauté par les plantes à tout crin, je trouve que c'est très ennuyeux, primo, dans les corrélats idéologiques, parce qu'au fond la nature est quand même moins marrante que la culture, en tout cas moins diverse. Et en plus de quoi, en matière de parfumerie, la grande parfumerie française a été créée grâce à des produits chimiques. La parfumerie française n'était pas vraiment importante avant 1880. Il y avait une parfumerie espagnole, une parfumerie italienne, une parfumerie anglaise qui était plus puissante par bien des aspects. Et c'est parce que la parfumerie française a réellement inventé le concept moderne de parfum en utilisant des produits de synthèse et des produits qui n'avaient aucun équivalent dans la nature de surcroît, qu'il y a eu quelque chose comme la parfumerie française. Et même chose en matière de cosmétiques. Il y a des pigments qui sont à base de chimie pure et simple, qui sont infiniment plus sûrs que les plantes. Enfin, moi, les plantes m'ennuient comme telles. Je suis désolée.
Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux. Y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l'air. Baudelaire.
Était végétale. Donc il est facile d'imaginer qu'elles ont été utilisées pour le maquillage et l'embellissement de la peau, mais également pour les cheveux. D'autant plus qu'il y a des plantes qui ont des rôles tout à fait précis. Par exemple, écraser de l'indigo, le mélanger avec de l'eau, le faire macérer et l'appliquer sur les chevelures permet aux chevelures noires d'être encore plus près de l'ébène et d'avoir des couleurs comme ça extraordinaires. Le henné que nous connaissons, l'ina, qui est une plante que l'on trouve en Afrique du Nord, donne des reflets à cajou. Mais le noyer, le noisetier, la tourmentille, la noix de galle sont des plantes qui sont très gainantes et qui, posées sur un cheveu fin, par exemple, lui donnent du corps, du volume. Et on a vraiment l'impression, après une application de ce masque de plantes, d'avoir trois fois plus de cheveux sur la tête.
Les femmes africaines, les femmes mauritaniennes et les femmes d'Agadez préparent une teinture à partir de pierres pilées, de noix et de girofle, une teinture noire qui rend la chevelure extrêmement brillante. Elles en font une pâte qu'elles laissent sécher pendant plusieurs heures, elles se rincent et puis ensuite la chevelure devient étonnante. La noix de karité pousse surtout au Mali. Au Mali, on se sert de ce beurre ou de cette huile extraordinaire pour tout, pour les massages de jambes, les massages contre la fatigue, alors pour les soins de la peau, pour les soins de la chevelure, et on s'en sert aussi dans la construction des maisons traditionnelles en terre. C'est le beurre de karité qui fait tenir la terre, qui graisse la terre et qui la rend imperméable, puisque ce sont des architectures qui sont crues. La noix de karité pousse sur un petit arbre et on peut faire plusieurs récoltes par an. Elle a plusieurs enveloppes, des enveloppes rouges et des enveloppes blanches. On enlève ces enveloppes, on casse le noyau et l'amande est à l'intérieur. Et c'est cette amande qui est grossièrement pilée dans des meules de pierre dont on recueille le jus, qui devient une sorte d'huile très très épaisse et qui sert à tous les usages dont je viens de parler. C'est un élément très très important au Mali, au Togo, en Haute-Volta, au Sénégal, dans presque toute cette partie-là de l'Afrique aussi.
Il y a eu une période où les tons clairs étaient à la mode chez les Romains. Et alors, à ce moment-là, les Romaines ont commencé à se décolorer les cheveux. Évidemment, l'oxygéné, les produits ammoniaqués n'existaient pas du tout. Alors, elles avaient fait une espèce de mélange. Elles ont commencé avec de l'urine humaine. Elles s'enduisaient les cheveux d'urine humaine et elles passaient au soleil ensuite. Vous avez évidemment remarqué que le soleil avait un pouvoir décolorant. Mais avec l'urine... C'était encore plus extraordinaire. Et puis, en deuxième temps, elle prenait même de l'urine d'animaux qu'elle laissait s'en boire assez longtemps pour que les urines soient encore plus fortes et que le pouvoir décolorant, c'est vrai, ça fait une concentration d'ammoniac qui est plus importante et de ce fait, un cheveu qui est plus attaqué, donc les rayons du soleil ont une action plus puissante. Et d'où les fameux blonds vénitiens. Les blonds vénitiens, c'était leur origine, c'est cela.
Une femme qui ne se parfume pas n'a pas d'avenir. Coco Chanel.
Du secret au niveau de la parfumerie dans la mesure où il y a un secret des formules. Il est bien évident que le parfumeur ne va pas donner ses formules. Mais je dirais que ce n'est pas un plus grand secret que le secret d'un peintre concernant ses pigments. Ça relève du secret professionnel et de la même manière, je ne sais pas, la maison Apple ne donne pas les secrets de fabrication du Macintosh. On ne donne pas ses codes de fabrication d'une manière générale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on veuille faire durer cette espèce de mythologie du secret. Probablement, est-ce une résistance au monde contemporain. Et probablement, dans l'idée de talent, il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux et de beaucoup plus grande mise à l'épreuve, je dirais, que dans l'idée de secret. On a envie de secrets de bonnes femmes, comme pour compenser le positivisme ambiant. Alors que c'est peut-être grâce au positivisme ambiant qu'on a une espèce de lucidité sur son apparence.
L'abus des parfums donne naissance à toutes les névroses. L'hystérie, l'hypochondrie, la mélancolie en sont les effets les plus ordinaires. Docteur Rostand, 1826.
En Chine, autrefois, avait commis un adultère ou un crime de lèse-majesté. On la condamnait à mort, mais comme c'était une princesse, il fallait lui donner une mort douce. Et on la condamnait à mourir empoisonnée par l'odeur des daturas. Vous savez, les daturas sont ces longues fleurs blanches qui ont un parfum si fort, un parfum qu'on sent surtout la nuit. Alors en Chine, on disait les nuits de pleine lune, bien sûr que le parfum était plus fort. On attachait ces princesses sous les arbustes de datura et le matin, elles ne se réveillaient pas.
Lorsque les garçons, au début des années 20, ont les cheveux courts, en fait, une femme qui a les cheveux courts a des yeux. Et Du coup, on met en relief ce qui est naturellement plus visible, différentiellement. Je ne crois pas qu'il y ait de vraies règles. Et quand on a eu fini de voir les yeux dans les années 20, vers la fin des années 20, on maquille moins les yeux, on met moins de kohl, qui avait été effectivement découvert par le premier cinéma hollywoodien, style Teda Barra, en 1915, 16, 17. On se met à s'intéresser du coup à la bouche, d'où ces yeux toujours à moitié clos des héroïnes à partir de 1929, qui vont se fermer de plus en plus jusqu'en 1933-1934. Et puis, du coup, il faut bien mettre en évidence quelque chose. On met en évidence la bouche. Et comme dans l'intervalle, on a beaucoup avancé sur le maquillage de la bouche, alors ça paraît normal. Dans les sociétés occidentales modernes, le rouge à lèvres faisait mauvais genre. C'était pour les théâtreuses. Et il a cessé de faire mauvais genre après la guerre de 14. Probablement parce qu'il y a eu quelque chose comme une décrispation au moment de la guerre. Les femmes ont changé de vie. Les codes en général ont été bouleversés. Et dans la foulée, les codes de l'apparence. Pour ce qui concerne le rose à ongles, effectivement, c'est la grande et superbe invention des années 20. On se mettait du cutex. Et c'est vrai que le cutex a été très très important, parce que lorsque la mode s'est raccourcie, après la guerre de 14 donc, les femmes étaient comme toutes nues. Elles avaient les jambes en évidence, les bras en évidence, parce qu'il n'y avait plus tous ces ornements qui occupaient le corps. Donc elles ne savaient pas quoi faire de leurs bras ni de leurs mains. Elles ne savaient pas où les mettre. Elles n'avaient plus des rubans à porter. Enfin, tous les colifichets d'avant la guerre ayant disparu, il fallait qu'elles puissent jouer avec leurs mains, donc les décorer.
Les enfants nettoieront leurs faces et leurs yeux avec un linge blanc. Cela décrasse et laisse le teint et la couleur dans la constitution naturelle. Se laver avec de l'eau nuit à la vue. Engendre des maux de dents et des catarrhes. Appâlit le visage et le rend plus susceptible de froid en hiver et de hâle en été. Civilité Nouvelle, 1671.
Quelque chose d'assez fabuleux dans l'idée justement d'Institut de beauté, c'est que la beauté devient quelque chose de réglé. On va pour se faire soigner, on va pour se faire arranger, et un petit peu bon, comme on va chez le médecin. Et c'est une sorte de médecine psychologique qui n'est pas simplement là pour détendre, mais qui est là pour faire prendre aux femmes la conscience de leur corps, parce qu'elles n'ont pas le temps nécessairement de s'occuper d'elles-mêmes. Et donc, lorsqu'elles prennent rendez-vous, elles sont obligées d'y aller. C'est une chose à la fois merveilleuse et effectivement très positive, très positiviste. C'est une démarche, je dirais presque, de méthode. C'est une méthode de vie.
Si les femmes étaient telles, naturellement, qu'elles le deviennent par artifice, elles seraient inconsolables. La Bruyère.
Il n'y a plus de secret à proprement parler. Il y a un rapport conscient en soi-même qui peut être associé à une forme d'astuce, un flair, qui peut avoir quelque chose de ludique. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler réellement de secret.
La matinée des autres. Secret de beauté. Une émission de Jacqueline Kellen. Avec Christian Jacques, égyptologue. Jacques Soustel, professeur à l'école pratique des hautes études. Marguerite Cardoche-Anderlin, sumérologue. Françoise Grund, de la Maison des Cultures du Monde. Simone Weisbard, ethnologue. Hélène Clauderer, spécialiste des soins du cheveu. Marie-Hélène Delbourg-Delfis, écrivain. Texte lu par Anna de Carvalho et Guy Chapelier. Mixage, Daniel Bizien, Gilles Pézera. Réalisation, Christine Berlamont.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 novembre 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he went past. Looking for Jimmy Jazz, 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 and set in Massamania for Jimmy Dredd. Cut off his ears and chop off his head. They came look for Jimmy Jazz, 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 Jazz. So don't take a message across this town. Maybe put it down somewhere and over the run. See, it gets to Jimmy Jazz, 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 Jazz. And don't you bother me, not anymore. I can't take this town, no, no, no more. It's all around, all around Jimmy Jazz. Jimmy Jazz, 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 Jazz. Police walked in for Jimmy Jazz. I
said he ain't here, but he went back.